Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Le Monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition du vendredi 1er juillet 2022. Avec vous, Eric Manilakidza. Voici d'abord le sommaire. Paris annonce la fin du déploiement de la force Takuba, groupement de forces spéciales européennes anti-djihadistes au Mali. Une enquête vise à Paris Castel, une filiale du géant français des boissons pour complicité de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre en Centrafrique. Au Soudan, des manifestants à Khartoum contre le pouvoir militaire défient la répression au lendemain d'une sanglante journée. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Fini les opérations de la Task Force Takuba au Mali. La France a annoncé la fin du déploiement de cette agrégation de forces spéciales européennes chargée d'accompagner les forces maliennes dans le combat contre le terrorisme. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La réorganisation du dispositif militaire français au Sahel a conduit à la fin des opérations de Takuba au Mali à compter du 30 juin. A déclaré le général Pascal Iani, porte-parole de l'état-major français. Takuba avait rassemblé une dizaine de pays européens et 800 à 900 soldats d'élite chargés d'aider les forces maliennes à gagner en autonomie et leur permettre de reprendre pied dans les territoires occupés par les groupes djihadistes. La pleine capacité opérationnelle de Takuba, qui signifie « sabre » en langue tamachèque, avait été décrétée début avril 2021. Elle aura duré moins d'un an. Les opérations conjointes ont cessé dès février dernier. Avant Takuba, Barkhane, composée de militaires français, est en train de se retirer du Mali et ce processus doit prendre fin août, après 9 ans d'engagement. La MINUSMA, prolongée d'un an, sera donc privée du soutien aérien français. Début mai, la junte a mis fin au traité de coopération de 2014 avec la France et des accords de 2013 et 2020 sur la présence de la force Barkhane et des forces spéciales européennes Takuba au Mali.
Les dirigeants de la CEDEAO se réunissent lors d'un sommet dimanche à Accra au Ghana. Ils doivent statuer sur les sanctions concernant le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Les leaders ouest-africains entendent peser pour un retour rapide des civils au pouvoir. Par ailleurs, le médiateur ouest-africain pour le Burkina Faso, l'ex-président nigérien Mahamadou Issoufou, entame vendredi une visite à Ouagadougou. Lors de sa visite qui s'achèvera samedi demain, Monsieur Issoufou rencontrera notamment le chef de la junte militaire, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, selon le programme du séjour. Une enquête a été ouverte à Paris pour complicité de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, après un rapport de l'ONG de Sentry qui accuse Castel, une filiale du géant français des boissons, d'avoir soutenu financièrement des rebelles en Centrafrique pour sécuriser ses installations. Les précisions de John Linden.
L'enquête a été ouverte mercredi selon une source proche du dossier et confiée à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine. En août 2021, The Sentry avait affirmé que SUCAF RCA, filiale de la SOMDIA, la Société d'organisation, de management et de développement des industries alimentaires et agricoles, elle-même contrôlée à 87% par le groupe Castel, avait négocié un arrangement sécuritaire avec notamment l'Unité pour la paix en Centrafrique, un groupe armé accusé d'exactions et dirigé par Ali Darassa. Cet arrangement visait à sécuriser son usine et les champs de canne à sucre et tenter de protéger le monopole de la société selon l'ONG spécialisée dans la traque de l'argent sale. En échange de la sécurisation du site, la SUCAF RCA a mis en place un système sophistiqué et informel pour financer les milices armées par des paiements directs et indirects en espèces, ainsi que par un soutien en nature sous forme d'entretien des véhicules et fournitures de carburant, selon des Sentry, dont les avocats se réjouissent de l'ouverture de cette enquête.
À Khartoum, au Soudan, des centaines de personnes ont manifesté contre le pouvoir militaire sous les tirs de grenades lacrymogènes au lendemain de la journée la plus sanglante depuis le début de l'année. Plus de détails avec Claire Morejibour.
Pour le deuxième jour consécutif, dans le centre de la capitale et sa banlieue nord-est, la foule a maintenu la pression sur le général et auteur du putsch, Abdel Fattah al-Burhan. Plusieurs centaines de manifestants ont de nouveau scandé « Le peuple veut la chute de Burhan », puis appelé à la vengeance alors qu'il brandissait des photos des victimes de la répression qui a fait 113 morts et des milliers de blessés depuis le coup d'État du 25 octobre 2021, selon des médecins pro-démocratie. Hier, 9 manifestants ont été tués par les forces de sécurité. La plupart des victimes, dont un mineur, ont été mortellement touchés par balles, ce qui a provoqué une volée de condamnations de la communauté internationale qui, depuis 8 mois, ne parvient ni à convaincre les généraux de cesser de tirer sur la foule, ni à faire venir les civils à la table des négociations avec ces mêmes militaires. L'ambassade américaine à Khartoum dit avoir le cœur brisé par ces morts tragiques, tandis que l'ONU et l'Union africaine ont condamné l'usage excessif de la force par les forces de sécurité et l'impunité dont elles bénéficient.
Les États-Unis et leurs alliés vont devoir affronter des sortes de groupes extrémistes violents et l'arrivée de mercenaires russes au Sahel a averti le général Stephen Townsend, chef du commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM. Du 6 au 30 juin, plus de 7500 soldats originaires d'une douzaine de nations, dont le Sénégal, le Tchad, le Brésil, l'Italie, la France et le Royaume-Uni, ont participé à l'exercice militaire international African Lion 2022 dans le désert du sud marocain, African Lion, les plus larges manœuvres interarmées annuelles sur le continent africain, s'est déroulée essentiellement au Maroc, mais aussi en Tunisie, au Sénégal et au Ghana. Une nouvelle vague de violence djihadiste dans le nord-est du Mozambique a forcé plus de 30 000 enfants à fuir en juin, soit le chiffre mensuel le plus élevé depuis le début de cette crise en 2017, s'alarme une ONG britannique vendredi. Une cinquantaine de personnes ont été tuées en juin lors de raids éclairs contre des cibles isolées et vulnérables dans plusieurs districts, résume l'ONG américaine ACLED, ce qui a forcé ainsi plus de 60 000 personnes à fuir leur foyer selon les derniers chiffres de l'OIM. Migrants noyés dans la Manche en novembre 2021, 10 hommes ont été inculpés mercredi et jeudi à Paris, suspectés d'appartenir à un réseau de passeurs. Les migrants âgés de 7 à 46 ans, 16 Kurdes d'Irak, un Kurde d'Iran, 4 Afghans, 3 Éthiopiens, une Somalienne, un Égyptien et un Vietnamien, avaient péri le 24 novembre dans le naufrage de leur bateau pneumatique au large de Calais, alors qu'il tentait de rejoindre la Grande-Bretagne.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Israël, le centriste Yair Lapid devient aujourd'hui le nouveau Premier ministre avec la dissolution du Parlement votée jeudi. Monsieur Lapid succède à Naftali Bennett, mais des défis de taille se dressent devant le nouveau chef du gouvernement de l'État hébreu, les précisions de Jean-Roger Bion.
En vertu d'un accord de partage du pouvoir, Naftali Bennett a cédé son rôle à Yair Lapid, qui sera à la fois premier ministre et chef de la diplomatie d'ici à la formation d'un nouveau gouvernement après les législatives fixées au 1er novembre. D'ici cette échéance, M. Lapid ne devrait pas chômer. Sur la table, l'inflation et Benjamin Netanyahou qui rêve de le déloger du pouvoir. La question d'un possible nouvel accord entériné par Washington sur le programme nucléaire iranien devrait être au cœur de la visite mi-juillet du président américain Joe Biden en Israël. Né en novembre 1963 à Tel Aviv, Yair Lapid est le fils du défunt journaliste et ancien ministre de la Justice, Tommy Lapid. Il fut lui-même une star de la télé israélienne, premier ministre, ministre des Affaires étrangères et candidat aux élections. Yair Lapid a devant lui un agenda chargé qui lui confère aussi, selon la presse locale, un avantage. Pour la première fois, il affrontera Benjamin Netanyahou dans l'habit du chef.
La Cour pénale internationale CPI célèbre aujourd'hui son 20e anniversaire, dont le traité fondateur, le statut de Rome, est entré en vigueur le 1er juillet 2022. Marqué par deux décennies de critiques et de controverses, elle enregistre un maigre bilan de 5 condamnations, des accusations selon lesquelles elle ne s'est concentrée que sur l'Afrique, en ternit son image. Le refus des États-Unis, de la Russie et de la Chine de rejoindre cette cour en a également entravé la portée, mais cette instance qui siège à La Haye aux Pays-Bas Juba reste la seule juridiction permanente au monde dédiée à la lutte contre l'impunité pour les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, signée ce soir, Jean-Roger Bion.
La Sierra Leone a mis en circulation vendredi de nouvelles pièces de monnaie et billets de banque qui perdent 3-0 par rapport aux anciens en vue de rétablir la confiance dans un contexte d'importante inflation. Le coût des biens et services reste changé avec l'introduction de cette mesure, a indiqué la Banque centrale dans un communiqué. La Compagnie nationale libyenne de pétrole a annoncé jeudi soir des pertes de plus de 3,5 milliards de dollars résultant de la fermeture forcée de sites pétroliers majeurs depuis mi-avril et décrété l'état de force majeure sur certaines installations. Invoquer l'état de force majeure permet de libérer l'entreprise de ses obligations contractuelles tout en l'exonérant de toute responsabilité du fait de leur inexécution. Le dollar à valeur refuge est en hausse marquée ce vendredi face à la livre britannique, profitant des craintes sur l'économie mondiale et du ton déterminé de la réserve fédérale américaine face à l'inflation. Les dépenses des ménages américains ont ralenti au mois de mai sous l'effet d'une inflation record et de revenus qui n'augmentent pas suffisamment pour la compenser, selon les données du département du commerce publiées jeudi.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Yacouba Ouedraogo, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On commence avec le football féminin. La CAN féminine débute demain samedi au Maroc.
Oui, et le match d'ouverture de cette 14e édition oppose le pays hôte, le Maroc, au Burkina Faso, au complexe sportif Moulay Abdallah de Rabat. Les 12 équipes ont été réparties en 3 groupes de 4. En plus du Burkina et du Maroc, on retrouve l'Ouganda et le Sénégal dans le groupe A, basé à Rabat. Le groupe C est aussi logé à Rabat et comprend l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Burundi et le Botswana. Casablanca accueille la poule B composée du Cameroun, du Togo, de la Tunisie et de la Zambie. On connaîtra le successeur du Nigeria, champion en titre et qui a remporté 11 des 13 éditions passées. Le 23 juillet, jour de la finale, les 4 demi-finalistes se qualifieront pour la prochaine Coupe du Monde féminine prévue en 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Et en première ligue, Mohamed Salah prolonge à Liverpool.
L'attaquant international égyptien a signé un nouveau contrat de longue durée avec Liverpool, annonce le club anglais dans un communiqué. Le précédent contrat de Mohamed Salah, 30 ans, est arrivé chez les Reds en l'été 2017. En provenance de l'AS Rome, arrivait à échéance en juin 2023. Selon des médias locaux, son nouveau contrat irait jusqu'en 2025. « Je me sens bien et tout excité à l'idée de remporter de nouveaux trophées avec le club », a déclaré Salah sur le site officiel des Reds. Sous le maillot de Liverpool, Salah a remporté la Ligue des Champions en 2019 et perdu 2 autres finales de Ligue des Champions en 2018 et 2022. Il a en tout inscrit 156 buts en 254 matchs pour Liverpool.
En cyclisme, le coup d'envoi du Tour de France donné à Copenhague.
Oui, et c'est avec un contre-la-montre de 13,2 km qu'a commencé cette 109e édition à Copenhague, au Danemark. C'est la première des 21 étapes de la course la plus célèbre du monde. 218 cyclistes, dont 2 Africains, tous Sud-Africains, Luis Mengjet et Reinhard Jans van Renborg, sont en lice pour la succession du Slovène Tadej Pogačar, vainqueur ces 2 dernières années. L'arrivée finale est prévue le dimanche 24 juillet sur les Champs-Élysées à Paris.
Enfin, début en Russie du procès de la basketteuse américaine Brittany Griner.
La star américaine du basket féminin est jugée pour contrebande de drogue en Russie. Ce procès se déroule avec une présence limitée des médias dans la salle d'audience. Il a été ajourné au 7 juillet. La joueuse des Phoenix Mercury est venue en Russie en février pour y jouer durant l'intersaison américaine. C'est à son arrivée à l'aéroport Moscovite que la double médaille d'or olympique avec les États-Unis a été arrêtée en possession, selon l'accusation, de vapoteuse et d'un liquide à base de cannabis. Brittany Griner risque jusqu'à 10 ans de prison. Washington a déclaré que la Russie détient injustement la star de 2,3 m, âgée de 31 ans. Son cas est suivi par l'envoyé spécial des États-Unis en charge des personnes prises en otage.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manila-Kibza, place au dossier du jour. Les États-Unis ont vivement dénoncé jeudi dans un communiqué la volonté du Mali de ne pas appliquer les dispositions du nouveau mandat de la force de l'ONU MINUSMA, adopté mercredi par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le Mali a dit ne pas pouvoir garantir la liberté de mouvement des casquets bleus pour des investigations sans un accord préalable de Bamako. Pour une analyse sur ce nouveau bras de fer entre Bamako et les Nations Unies, Abdelrahman Dia a joint à Ségou Boubacar Aïdara, chercheur, docteur en sciences politiques.
C'était déjà le cas bien avant la réunion du Conseil de sécurité relative à la prolongation du mandat. C'était déjà le cas avec la MINUSMA et on pouvait déjà se poser des questions sur l'utilité de la continuation de la mission ici au Mali, parce que je crois que on s'est aperçu depuis un moment que les autorités maliennes, politiques et militaires, n'avaient pas la même perception que les enquêteurs de l'ONU et aussi les différentes organisations de défense des droits de l'homme sur ce qu'on appelle donc les abus et les exactions contre les civils. Il n'y a jamais eu de concordance de point de vue sur ce phénomène-là. L'exemple de Moura qui s'est passé il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant, en est un exemple illustratif.
Le mandat a tout de même été adopté par le Conseil de sécurité. Est-ce qu'il ne fallait peut-être pas s'opposer à son adoption sous la forme actuelle, tout simplement, ou en tout cas négocier le mandat avant qu'il ne soit adopté?
Oui, justement, ça aurait été la meilleure chose à faire, parce que là, il y a quand même un grand problème. Moi, je crois que les forces internationales, donc en l'occurrence ici la MINUSMA, intervient pour aider le Mali. Et on est face à une situation un peu rocambolesque où la personne qui est aidée refuse la forme de l'aide qui lui est proposée. Donc on a l'impression que les charrues ont été mises avant les bœufs. Et donc c'est une situation qui est déplorable. Mais on peut aussi penser que le Mali est auparavant formulé sa demande ou sa réticence face à ces dispositions, mais qu'elle n'a pas été entendue.
Comment est-ce que vous voyez l'avenir de ces relations entre Bamako et la MINUSMA?
J'ai commencé par évoquer ça. Nous pouvions déjà nous poser des questions sur l'utilité, le bien fondé de la prolongation de la mission. Parce que depuis un certain temps, depuis quelques mois d'ailleurs, 3, 4, voire 5 mois, les relations entre la MINUSMA et les autorités du Mali sont présentées comme bonnes par les responsables de la MINUSMA, mais dans les faits, on voit que ce n'est pas du tout ça.
C'était le chercheur Boubacar Aïdara, joint dans la ville malienne de Ségou.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
La sécheresse a atteint des niveaux records dans la Corne de l'Afrique et touche tout particulièrement les femmes et les filles dans les zones rurales. Celles-ci doivent parcourir des dizaines de kilomètres pour aller chercher de l'eau potable, mettant leur sécurité en danger. Le groupe caritatif américain Water is Life Kenya creuse des puits pour les villages et les écoles afin de rapprocher les points d'eau des habitations. Un reportage de Juma Majanga à Olepolos au Kenya et récit signé d'Ilidiko.
Dans le village d'Olepolos, au pied du mont Kilimandjaro, des femmes et des filles chantent pour célébrer le don de l'eau. L'eau est un droit fondamental garanti aux citoyens par la constitution kényane, mais dans la pratique, l'accès à l'eau potable reste un défi majeur pour les communautés reculées. Écoutons ces habitants de Lepoulos.
Nous avions l'habitude de marcher plusieurs kilomètres et passer la frontière pour aller chercher de l'eau en Tanzanie. Parfois, nous étions harcelés par les habitants là-bas parce que nous étions étrangers. On nous disait de ramasser et de transporter de la bouse d'âne dans nos choukas. C'était vraiment du harcèlement.
Le niveau de pauvreté était très élevé parce que notre bétail mourait par manque d'eau. Il pouvait y avoir de l'herbe, mais sans eau, le bétail ne peut pas survivre.
Le manque d'eau dans les zones arides et semi-arides affecte surtout les femmes et les filles. Écoutons Joyce Tanyan, cofondatrice de Water is Life Kenya.
Passer toute leur journée à aller chercher de l'eau, cela empêchait beaucoup de filles d'aller à l'école. La plupart des femmes adultes de cette communauté n'ont pas du tout été à l'école. Et donc nous voulions vraiment, vous savez, résoudre un problème qui les aiderait à transformer leur vie.
Les habitants disent que la branche de l'ONG Water is Life au Kenya a fait une grande différence.
Pour être honnête, nos vies ont vraiment changé pour le mieux maintenant que nos enfants vont à l'école.
Maintenant, c'est comme le paradis. Il n'y a pas de problème. Vous allez chercher de l'eau, vous faites votre lessive, les enfants sont propres pour l'école, vous avez plus de temps. Nous sommes dans une bien meilleure situation et nous en sommes heureux.
Avec 25 projets liés à l'eau achevés dans différents villages du comté de Kajiado, et facilitant la vie de plus de 100 000 habitants, la cofondatrice de Water is Life Kenya, Joyce Tanyan, affirme que son travail a été très gratifiant.
Cette barrière est supprimée, l'eau est là. Maintenant, les gens peuvent prospérer. Pour moi, c'est un rêve. Et vous savez, c'est la meilleure chose dans la vie, en fait. Voir ses fruits pousser, les gens se développer, c'est un miracle.
Le dicton « l'eau, c'est la vie » n'a jamais été aussi vrai qu'il l'est aujourd'hui pour les habitants d'Olepolos. Alors que les femmes et les filles du village chantent pour célébrer, de nombreuses personnes dans d'autres régions arides et reculées du Kenya ont encore besoin d'eau.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Après la découverte lundi de 67 personnes entassées dans un camion abandonné dans la banlieue de San Antonio, au Texas, le bilan de la tragédie s'est alourdi. L'enquête se poursuit tandis que les survivants luttent pour leur vie dans les hôpitaux locaux et que les autorités tentent d'identifier les morts. Le reportage de Jem Moreno à San Antonio est relaté par Jean-Roger Bion.
Les 67 migrants étaient transportés à l'intérieur d'une semi-remorque sous une chaleur accablante à San Antonio, au Texas. Certains sont morts dans le camion et le nombre de morts est passé à 53 après que plusieurs autres soient décédés à l'hôpital. Ron Nirenberg, maire de San Antonio.
Ce n'est rien moins qu'une horrible tragédie humaine.
11 personnes demeurent encore entre la vie et la mort. Ruben Minuti est le consul général du Mexique à San Antonio.
En général, le personnel médical des hôpitaux, j'insiste, en général, a indiqué que les blessés sont dans un état critique avec des défaillances neurologiques, rénales et hépatiques et des hémorragies internes.
Seules 37 victimes ont été provisoirement identifiées. Le FBI s'est joint à l'enquête. L'identification des personnes qui traversent illégalement les frontières peut s'avérer très difficile. Mario Adolfo Bucaro, ministre guatémaltèque des Affaires étrangères.
Parce que souvent, ils viennent avec des faux documents. Nous devons enquêter sur ces informations avec des empreintes digitales et des tests ADN pour garantir leur identité.
La communauté de San Antonio déplore pour le moment la mort de 40 hommes et 13 femmes. De nombreux résidents ont déposé des fleurs sur un hôtel de fortune et ont prié pour les victimes. Loretta Escalante, résidente de San Antonio.
Je suis venue ici pour présenter mes respects. Ces gens sont venus ici parce qu'ils veulent travailler et avancer dans la vie, bâtir une nouvelle vie ici.
3 personnes sont en garde à vue en lien avec l'abandon du camion. Les autorités ont déclaré que le conducteur présumé était sous l'emprise de la méthamphétamine. Il s'est fait prendre non loin de la scène du drame alors qu'il tentait de se faire passer pour un migrant. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, juge le président Joe Biden et ses politiques responsables de cette tragédie.
Now going back, many of these deaths could be prevented.
Beaucoup de ces décès auraient pu être évités si Joe Biden finançait pleinement les opérations de patrouille à la frontière et mettait en œuvre les dispositions dont la police des frontières a besoin pour faire son vrai travail. Et ce travail consiste à sécuriser la frontière et à inspecter le véhicule transportant les personnes qui ont perdu la vie.
La Maison-Blanche a fait savoir qu'une récente mission des forces de sécurité a permis de procéder à plus de 24 000 arrestations liées à la traite des êtres humains au cours des trois derniers mois. Selon le ministère américain de la Sécurité intérieure, la tragédie de San Antonio est l'un des incidents les plus meurtriers liés au trafic d'êtres humains à la frontière entre le Mexique et les États-Unis.
La CAN féminine débute demain samedi au Maroc et se poursuivra jusqu'au 23 juillet, jour de la finale. Deux villes accueillent les rencontres, Rabat et Casablanca. Pour la première fois, la compétition regroupe 12 pays au lieu de 8 habituellement. Les équipes sont réparties dans 3 groupes de 4. Sur les enjeux de cette CAN féminine et l'ambiance qui prévaut au Maroc la veille du match d'ouverture entre le pays hôte et le Burkina Faso, Yacouba Ouedraogo, adjoint à Casablanca, Amine Birouk, consultant sportif.
L'opinion publique attend avec beaucoup d'impatience le démarrage de la CAN féminine. Il y a un effort de communication qui est fait autour de l'événement, de façon à ce qu'il y ait du public dans les 3 stades qui sont dédiés à la compétition. Et les certitudes, c'est quand le pays organisateur où va jouer, il y aura du monde. On comprend aussi l'effort de communication fait par la Fédération marocaine de football pour inciter les jeunes, les associations, les colonies de vacances, les affiliés à la fédération, notamment les petits jeunes des clubs pour pouvoir venir assister à ces rencontres. L'effort qui doit être entrepris en plus, c'est de pouvoir avoir du monde sur les autres stades, dans les autres matchs, parce qu'on aura remarqué ça dans toutes les éditions de la CAN. Il y a toujours un engouement autour du pays organisateur, beaucoup moins sur les autres confrontations. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un effort qui est fait au niveau de la promotion du football féminin au Maroc. Il y a eu un travail de fond avec la caravane du football féminin. Depuis 3 semaines, elle a sillonné toutes les villes du Maroc à la recherche de potentielles joueuses de football. Ça a eu un succès assez intéressant, puisque les mamans, les papas ont amené leurs petites filles pour pouvoir rencontrer les encadrants de cette caravane du football féminin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a servi également de détonateur ou de publicité pour un événement où il y a 12 sélections en lice, où il y a 4 places de mondialistes pour la prochaine édition 2023 qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande, et puis beaucoup de possibilités de voir des talents éclore lors de cette compétition.
Dans cette CAN à 12 équipes, il y a des habitués hein, comme l'équipe du Nigeria, championne en titre d'ailleurs. Et il y a aussi des novices comme le Burkina Faso. Et qui sont ceux qui sont les favoris de cette CAN?
Théoriquement, le pays qui part avec la faveur des pronostics, c'est le Nigeria. Sur les 13 éditions de la CAN, 11 ont été gagnées par ce pays. Il possède une des joueuses les plus talentueuses du continent, la joueuse du Barça, Aziatou Oshoala. Il y a ensuite l'Afrique du Sud. Le pays a la particularité de partager le même groupe, le groupe C, qui aura lieu au stade Moulay Hassan de Rabat. Il y a aussi le Cameroun, souvent placé mais jamais gagnant, avec un collectif qui a su se préparer de manière méthodique, même s'il y a eu au passage une lourde défaite face à l'équipe de France féminine sur le score de 4-0. Et puis il y a les autres pays qui espèrent jouer au trouble fête, la Zambie qui a participé au dernier JO à Tokyo et qui se présente avec un groupe assez homogène, le Maroc qui a l'ambition d'aller à la Coupe du Monde et qui s'est attaché les services de Rinald Pedros, l'ex-entraîneur de l'Olympique Lyonnais qui a gagné de multiples reprises Champions League féminine.
Parlant justement du Maroc, pays hôte, le match d'ouverture c'est demain face au Burkina Faso. Comment l'aborder?
L'aborder pour gagner, parce qu'il conditionne la suite de la compétition. Le Maroc se trouve dans un groupe qui semble à sa portée, avec le Burkina Faso, qui fait sa première apparition à la CAN, l'Ouganda et le Sénégal. Visiblement, il y a moyen de finir première du groupe. Il y aura l'appui du public. Il peut même s'attendre à voir 30 000 à 35 000 personnes lors d'une confrontation qui est attendue par beaucoup de supporters et supportrices de l'équipe du Maroc, qui espèrent voir cette équipe, qui a fait une bonne préparation de somme toute, confirmer les espoirs qui sont placés en elle.
Amine Birouk, consultant sportif, joint à Casablanca. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. À la présentation, Eric Mandakiza, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.